Parmi les informations la plus importante, c'est que le Collège supérieur a son nouveau site. Je vous invite à vous y rendre. Il est tout neuf, tout beau. Si vous aviez quelques critiques à faire, c'est le moment de les faire parce qu'on est encore dans la phase des mises au point. C'est un site qui vous permet d'avoir régulièrement toutes les informations sur le Collège supérieur. Il y a un blog qui permettra d'engager davantage le dialogue entre les participants à la vie du Collège supérieur. Donc, allez sur le site. D'autre part, dans les informations, il y a ce mardi 24 janvier une conférence assez importante de Michel Younès dans le cadre du cycle « Le christianisme et les autres religions ». Michel Younès, qui est professeur à philosophe et théologien, un professeur à l'Université catholique, abordera le thème « Islam et christianisme, religion du livre, point d'interrogation ». Donc ce mardi 24 janvier, je vous invite à venir parce que Michel Younès est quelqu'un de très compétent sur la question, qui est une question dont l'importance va de soi. D'autre part, le Collège supérieur propose dans le cadre de la campagne électorale, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un temps de campagne électorale qui s'échauffe en tout cas. Et dans le cadre de cette campagne électorale, le Collège supérieur propose trois points de discernement d'un point de vue chrétien, parce qu'on ne peut pas dire que la présence de la pensée chrétienne et les propositions chrétiennes soient envahissantes dans cette campagne électorale. Et donc il y a de la place. Et donc cette place, nous la prenons pour le peu que nous sommes en mesure de l'occuper, par l'intermédiaire de trois conférences auxquelles je vous convie. La première conférence aura lieu le 7 février. Elle a pour titre « La vie, un choix inconditionnel » par Catherine Denis, qui est médecin et théologien ou théologienne, et qui parlera donc de la question de la vie en ses débuts et en sa fin, puisque curieusement, mais au fond c'est plutôt passionnant et c'est plutôt intéressant, curieusement, le politique se voit confier des questions métaphysiques incroyables, celles du commencement de la vie et celles de la fin de la vie. On ne s'attendrait guère à ce que le politique se voit confier de telles questions, bien qu'au fil des siècles, il n'ait pas hésité à faire fuir les gens. Mais ces questions donc deviennent extrêmement aiguës et elles sont des points de discernement dans une élection. Donc il y aura trois conférences, la première le 7 février, je vous invite à y venir, à faire venir nombreux vos amis, parce qu'il est important que cette conférence soit en même temps un événement, donc sur le thème de la vie. Une autre conférence aura lieu le 13 mars par Jean-Miguel Garrigue, que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, qui est un des plus éminents théologiens que nous ayons maintenant en France, et qui parlera du rôle politique des catholiques français. Et la dernière conférence sera Pierre-Yves Gomez, économiste, professeur de management à l'EM Lyon, directeur de l'Institut français du gouvernement des entreprises, qui développera le thème « Le capitalisme a-t-il un avenir ?» Voilà, deux rendez-vous proches, 24 janvier Michel Younès, 7 février Catherine Denis, « La vie, un choix inconditionnel ». À propos de cette conférence, d'ailleurs...
Deux avril.
C'est sur le bulletin. Vous pouvez vous procurer le bulletin. Alors, le bulletin est aussi, parce que je vois qu'il y a des têtes nouvelles ce soir. Donc, le bulletin, c'est le support habituel de nos travaux, de nos réflexions. Et donc, il y a régulièrement un éditorial et puis un article intérieur fait par un étudiant ou un enseignant du Collège supérieur, qui rend compte d'un travail réellement effectué au Collège supérieur. Puisque la loi que nous nous sommes donnée, c'est que tout ce qui est écrit ait d'abord été dit. Si davantage de gens l'appliquaient, on aurait moins d'écrits. Donc ce qui nous réunit ce soir, c'est, dans le cadre de la réflexion sur l'éducation, la question imaginaire ou virtuelle, le virtuel est-il une drogue? Ce qui nous conduit à poser la question va de soi, puisque tout le monde connaît le spectacle qui agace parfois de ces ados, voire de ces enfants, scotchés à un écran dans une attitude qui paraît hypnotique, qui semble les rendre complètement absents de leur entourage, qui leur fait perdre le goût même du repas et a fortiori de la conversation. Et donc ces enfants ou ces adolescents qui sont attachés à leur écran nous donnent l'impression d'être en présence de drogués. On verra dans quelle mesure ce terme est une métaphore ou décrit quelque chose de réel. Mais dans la mesure où nous sommes réunis surtout pour faire de la philosophie, nous commencerons par nous interroger sur la signification justement de l'écran, du spectacle, de cette relation à l'imaginaire qui caractérise la conscience, puisque partout où il y a une conscience, il y a une image. Les parois des cavernes, les pièces de théâtre, toutes les conduites esthétiques sont faites de cette mise à distance de la conscience qui s'objective à travers une image et trouve curieusement à s'y fasciner. Pascal disait avec sa profondeur habituelle, nous sommes semblables à des enfants qui s'effrayent du visage qu'ils ont eux-mêmes barbouillé. Et tout se passe comme si les images que nous avons façonnées devenaient tout d'un coup autonomes, nous revenaient dessus avec un mode de présence extrêmement envahissant, et ainsi elles nous fassent courir le risque de ce que les philosophes appellent une aliénation. Ce que les philosophes appellent une aliénation, c'est devenir étranger à soi. Aliénus, c'est l'autre. Et donc celui qui est aliéné, c'est celui qui ne se reconnaît plus, je ne me reconnaissais plus, et dont la conscience est pilotée de l'extérieur, n'est compréhensible que si l'on fait le passage par cette réalité extérieure qui semble le piloter, le diriger. Et c'est vrai que certainement, les premiers hommes qui façonnèrent des images, ils virent surgir un dieu. L'esprit dans la chose, tout d'un coup, surgissait sous leurs mains. Et au moment même où il semblait ne façonner qu'un objet de pierre ou proposer que des dessins sur des parois, cet esprit qu'il mettait dans la chose semblait devenir autonome et exercer cet étrange pouvoir de fascination qui est celui des images. Mais évidemment, on peut se dire qu'il y a différents ordres d'imaginaire, différents degrés d'imaginaire, que l'œuvre d'art n'est pas tout à fait semblable au spectacle, une œuvre d'art ne fascine pas un spectacle. Fascine, un spectacle captive. Une œuvre d'art n'est pas faite pour captiver. L'image est d'une nature différente quand elle est une image numérique ou quand elle est une peinture ou quand elle est une sculpture. Il y aura lieu sans doute de se demander si cet enfant qui est en train de faire des exercices avec son pouce frénétique, c'est un exercice physique intense, si cet enfant est devant une image du même type que celle de l'homme qui dessina des taureaux sur les parois de Lascaux, ou s'il y a un changement d'ordre, changement de nature. ou seulement un changement de degré entre l'un et l'autre. Alors, l'avertissement sur le danger des spectacles est depuis longtemps contemporain de la philosophie. Les philosophes sont habitués, pour ainsi dire, depuis Platon, à dénoncer la nocivité des spectacles, leur caractère corrupteur et la nécessité donc d'évincer, vous savez, chez Platon, les poètes, tous ceux qui sont des faiseurs de simulacres. Cette critique des spectacles est sans doute formulée de la manière la plus parfaite par Rousseau. Dans ce grand texte, qui est la lettre à D'Alembert sur les spectacles. Alors nous allons commencer par parcourir un peu cette lettre à D'Alembert sur les spectacles. Je croyais, avez-vous un choix de texte qui vous a été donné? Oui? Non? Seule une élite resserrée a droit à un choix de texte. Parce que, en fait, le choix de texte est proposé aux personnes qui viennent ici au titre de la formation. Mais on va réparer cette injustice au plus vite. Et donc, les textes vont arriver dans un moment. Vous pourrez vérifier avec vos propres yeux si ce que je dis se trouve bien dans les textes. En effet, donc, dans la lettre à D'Alembert sur les spectacles, Rousseau défend sa ville natale de Genève, car à Lyon on dit Genève, attaqué par D'Alembert comme une ville rétrograde, archaïque et obscurantiste, parce qu'elle y exclut le théâtre. Et Rousseau, bien qu'il ait été chassé de Genève, se précipite au secours de la mère patrie, et défend la cause de la cité de Calvin et justifie l'exclusion du théâtre par des arguments dont la pertinence est toujours plus évidente, me semble-t-il, et dénonce le caractère corrupteur du spectacle et du théâtre en particulier. Pourquoi une corruption ? Parce que l'argument est déjà présent chez Platon, mais il est prononcé avec force par Rousseau. Le spectacle suscite les émotions, titille les émotions, la peur, le désir, l'amour, sans objet. D'ailleurs, ne les suscite et ne les mobilise forcément précisément que parce qu'elles n'ont pas d'objet. Et si on s'autorise à les faire jouer fortement, c'est dans l'assurance qu'elles n'ont pas d'objet. Si bien qu'on s'autorise à pleurer et avoir peur, parce qu'on est assuré que ça n'a pas d'objet. Et du coup, on joue avec cette possibilité d'être bouleversé. Et d'ailleurs, on est content. On sort d'un film en disant... J'ai pleuré. Et c'est un éloge. Les jeunes filles, en tout cas, sortent du film en disant j'ai pleuré, et c'est un éloge. Elles y trouvent, d'ailleurs, on trouve maintenant à dire c'est émouvant comme un compliment. J'ai été ému ou je n'ai pas été ému est un critère devant un spectacle. Or, cette mobilisation des émotions sans objet va au contraire de ce qu'est la sagesse. Car la sagesse, les philosophes un peu bougons, mais non à tort, nous disent les émotions, il vaut mieux les maîtriser. Car la loi même de la liberté, de l'autonomie, qui est le contraire de l'aliénation, c'est de maîtriser ses émotions. Et à trop vouloir pincer de cordes sur la harpe des émotions, on finit par perdre toute capacité de maîtrise de soi, toute capacité d'attention, et donc on contredit l'exigence même de l'humanité comme être de raison. Je vous cite quelques passages de cette lettre à D'Alembert. Je vous recommande d'y aller, parce que c'est vraiment un texte qui a été longtemps méprisé, parce que Rousseau, dans ce texte, prend délibérément un point de vue anti-intellectualiste qui fait honte, mais qui est vraiment un très grand texte. Je vous en lis un passage. « Le mal qu'on reproche au théâtre n'est pas précisément d'inspirer des passions criminelles, mais de disposer l'âme à des sentiments trop tendres, qu'on satisfait ensuite aux dépens de la vertu. Les douces émotions qu'on y ressent n'ont pas par elles-mêmes un objet déterminé, mais elles en font naître le besoin. J'ai besoin de pleurer. Elles ne donnent pas précisément de l'amour, mais elles préparent à en sentir. Ne font pas aimer, mais elles aiguisent le besoin d'aimer. » Elles ne choisissent pas la personne qu'on doit aimer, mais elles nous forcent à faire ce choix. Ainsi, elles ne sont innocentes ou criminelles que par l'usage que nous en faisons. Quand il serait vrai qu'on ne peint au théâtre que des passions légitimes, s'ensuit-il de là que les impressions en sont plus faibles et que les effets en sont moins dangereux, comme si les vives images d'une tendresse innocente étaient moins douces, moins séduisantes, moins capable d'échauffer un cœur sensible que celle d'un amour criminel à qui l'horreur du vice sert au moins de contrepoison. Il est en train de nous dire, la nocivité du théâtre ne tient pas à son objet, ce n'est pas au fait que le théâtre nous montre des choses vicieuses ou vertueuses, des amours légitimes ou des amours perverses, mais le caractère corrupteur du théâtre tient au fait que, bonne ou mauvaise, cette émotion est mobilisée pour elle-même et fait naître le besoin irrépressible d'être ému. C'est précisément ça, une drogue. C'est chercher l'émotion pour elle-même et susciter perpétuellement en boucle le goût même de l'émotion, indépendamment de la réalité de son objet. Mais si l'idée de l'innocence embellit quelques instants le sentiment qu'elle accompagne, bientôt les circonstances s'effacent de la mémoire. Et alors suit un exemple que je vous lis pour le plaisir, parce que je suis persuadé qu'il ne vous étonnera si toutefois vous n'avez pas lu déjà ce passage. Quand le patricien Manilius fut chassé du Sénat de Rome, alors c'est pas Strauss-Kahn, hein. Vous allez voir. Quand le patricien Manilius fut chassé du Sénat de Rome pour avoir donné un baiser à sa femme en présence de sa fille. On avait de la vertu. À ne considérer cette action qu'en elle-même, qu'avait-elle de répréhensible ? Rien, sans doute. Elle annonçait même un sentiment louable. Mais les chastes feux de la mère pouvaient en inspirer d'impur à la fille. C'est beau. C'était donc d'une action fort honnête faire un exemple de corruption. Voilà l'effet des amours permis au théâtre. Le spectacle, tout spectacle, quel qu'il soit, quel que soit son objet, repose sur la dissociation du sentir et de l'agir. Cette dissociation du sentir et de l'agir est au principe de toutes les perversions. y compris d'ailleurs des pervers cliniques les plus connus, ceux qui vont, qu'on va retrouver dans le box d'un hôpital et dont la froideur étonne. Et si leur froideur étonne, c'est que précisément ils sont dans une schizoïdie, une séparation radicale de l'agir et du sentir. Ils ne sentent plus rien et ils sont dans un monde complètement fantasmatique. Cette dissociation de l'agir et du sentir est augmentée non seulement par le spectacle, mais elle est augmentée également par la technique. C'est bien la mise en danger anthropologique de toute technique qui vient de ce que, au fond, notre geste n'est plus restitué en sensation. Du temps où les gens se battaient nus face à face avec un glaive, leur agir et leur sentir étaient proches. Et on imagine que leur action était aussitôt restituée en sensation assez forte. Mais s'il suffit d'appuyer sur un bouton pour tuer des milliers de personnes, il y a une dissociation de l'agir et du sentir qui est impressionnante. Et qui fait que, au fond, on n'est plus que devant un monde de spectacle, de plans, de surface, et non plus donc dans un monde où l'agir et le sentir vont ensemble. Le spectacle, en outre, outre le fait qu'il dissocie l'agir et le sentir et me fait m'émouvoir les fesses vissées au fauteuil, a aussi, aux yeux de Rousseau, le tort de soumettre à un pouvoir. Le spectacle, et ça je crois que c'est une idée profonde, le spectacle est une image du pouvoir, et même une manifestation clé du pouvoir. Parce que, justement, il me rend passif, il m'émeut passif, et me laisse recevoir des impressions que je ne constitue pas et qui jouent le rôle d'un impératif par rapport à ma sensibilité. En particulier, le spectacle fait deux choses qui conspirent avec le pouvoir. Premièrement, il isole. Devant le spectacle, dans la salle obscure ou dans la surdité cérébrale qui est la mienne quand je suis devant un écran, je me trouve isolé. Le spectacle ne nous réunit pas. Il constitue peut-être un public, mais jamais une communion. Et c'est en isolant chacun dans son fauteuil, en divisant, la règle du pouvoir c'est de diviser, que le spectacle devient une figure du pouvoir. Le texte de Rousseau, je crois que c'est celui que je vous ai proposé. Non, c'est un autre. Oui. L'état d'homme a ses plaisirs, qui dérivent de sa nature, et naissent de ses travaux, de ses rapports, de ses besoins. Ces plaisirs, d'autant plus doux que celui qui les goûte à l'âme plus saine, rendent quiconque en sait jouir peu sensible à tous les autres. Un père, un fils, un mari, un citoyen ont des devoirs si chers à remplir qu'ils ne leur laissent rien à dérober à l'ennui. Le bon emploi du temps rend le temps plus précieux encore, et mieux on le met à profit, moins on en sait trouver à perdre. Aussi voit-on constamment que l'habitude du travail rend l'inaction insupportable et qu'une bonne conscience éteint le goût des plaisirs frivoles. Et c'est le mécontentement de soi, c'est le poids de l'oisiveté, c'est l'oubli des goûts simples et naturels qui rendent si nécessaire un amusement étranger. Je n'aime point qu'on ait besoin d'attacher incessamment son cœur sur la scène. comme s'il était mal à son aise au-dedans de nous. C'est exactement la description d'aliénation. Mettre son cœur sur la scène, c'est le dédoublement de l'aliénation. La nature même a dicté la réponse de ce barbare à qui l'on vantait magnificence des jeux établis à Rome. Les Romains, demanda ce bonhomme, n'ont-ils ni femme ni enfant ? Le barbare avait raison. L'on croit s'assembler au spectacle, mais c'est là que chacun s'isole. C'est là qu'on va oublier ses amis, ses voisins, ses proches, pour s'intéresser à des êtres imaginaires, pour pleurer les malheurs de mort ou rire aux dépens des vivants. Premièrement, le spectacle isole. Deuxièmement, il exerce un conformisme, puisqu'il va engendrer une attitude d'imitation, d'identification, nous reviendrons là-dessus, le modèle, le psychisme même. Alors je crois que c'est le passage que j'ai donné, je ne sais plus quel passage que j'ai extrait. La scène en général est un tableau des passions humaines, c'est ce que vous avez ? Non ? Il commence par quoi votre passage ? Bon, j'espère qu'on le lira, je ne sais pas. La scène en général est un tableau des passions humaines dont l'original est dans tous les cœurs. Mais si le peintre n'avait soin de flatter ses passions, les spectateurs seraient bientôt rebutés et ne voudraient plus se voir sous un aspect qui les fit mépriser d'eux-mêmes. Non, c'est pas ça que je veux dire. Qu'on n'attribue donc pas au théâtre le pouvoir de changer les mœurs. Il ne peut que les suivre. Ça, c'est profondément juste. Tous les trucs scolaires ressassés sur la comédie Molière critique les mœurs. Avez-vous lu une pièce de Molière ? Molière ne critique absolument pas les mœurs, il flatte l'opinion publique dans le sens du poil. C'est d'ailleurs la condition pour faire rire. Puisqu'on ne peut faire rire que si on prend le point de vue du collectif qu'on veut faire rire. Donc l'idée que le théâtre contribue à réformer les mœurs est une grosse sottise scolaire, déjà contredite par Rousseau. Qu'on n'attribue pas au théâtre le pouvoir de changer les mœurs, il ne peut que les suivre et les embellir. Un auteur qui voudrait heurter le goût général composerait bientôt pour lui tout seul. Quand Molière corrigea la scène comique, il attaqua des ridicules, mais les ridicules sont justement déjà désapprouvés en société. Il a attaqué des ridicules, mais pas des vices. À moins qu'en société, le vice soit justement d'être ridicule. Et à ce moment-là, c'est le conformisme. Si le vice est d'être ridicule, on est dans le conformisme, et le théâtre est une moulinette à conformisme. Mais il ne choqua pas pour cela le goût du public, il le suivit ou le développa, comme le fit aussi Corneille de son côté. On fait un tricot. Voilà pourquoi Rousseau oppose le spectacle et la fête. Parce que si le spectacle est une figure de pouvoir, la fête, elle, est une figure de la communauté. Et de la communauté libre. La communauté unie, la communauté vivante. Et que célèbre-t-on dans la fête ? Eh bien, dans la fête, c'est la communauté qui se célèbre elle-même. C'est la communauté qui se regarde elle-même. Que regarde-t-on dans la fête ? On se regarde les uns les autres danser. Et que vient-on faire dans une fête ? On vient voir les gens qui sont venus voir la fête. Je ne développe pas ça plus longtemps, mais on a à Lyon la chance d'assister à ce drame. Puisque Lyon, bien qu'étant une très grosse ville, a l'avantage d'avoir encore une fête. Avec toutes les dimensions d'une fête, son aspect religieux et son aspect populaire. Et donc à Lyon, le 8 décembre, il y a des gens qui font une procession, il y a des gens qui prient, il y a des gens qui saoulent, il y a des gens qui se battent, il y a des gens qui mangent des merguez. Personne ne sait pourquoi il vient. Les gens descendent dans la rue, voir les gens qui sont descendus dans la rue. C'est une fête. Et obstinément, le pouvoir voudrait en faire un spectacle. Et toutes les années, essaye de faire gagner une position qui en fasse un spectacle et qui nous réduise à être immobiles, regardant des façades, regardant des surfaces, et nous mettant dans la position passive du spectateur, alors que la fête nous rend tous acteurs et tous spectateurs simultanément. Et donc la fête est une figure de la subversion, comme le savent bien les anarchistes, le spectacle est une figure du pouvoir. Je ne peux pas résister au plaisir de partager avec vous cette page célébrissime de Rousseau, qui décrit la fête. Alors il dit, bon, il y a bien dans les bonnes républiques comme Genève, des républiques qui ne sont pas ni efféminées ni mercenaires, il y a des fêtes. Alors c'est les montagnons qui dansent une bourrée suisse. Avec la liberté, partout où règne l'affluence, le bien-être y règne aussi. Planter au milieu d'une place un piquet, couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Vous voyez la différence entre le face-à-face du spectacle et la centralité de la fête. Il suffit de planter un piquet au centre d'une place, comme dans mon village de la Drôme, et aussitôt il y a une fête, et les gens vont venir autour de ce piquet danser la sardane, la bourrée ou que sais-je. Plantez au milieu d'une place un piquet couronné de fleurs, rassemblez-y le peuple et vous aurez une fête. Faites mieux encore, donnez les spectateurs en spectacle, rendez-les acteurs eux-mêmes, faites que chacun se voit et sème dans les autres, afin que tous en soient mieux suivis. Alors le texte que je vous ai donné, donc vous le lirez, rentrez chez vous si vous avez encore des forces, puisqu'il évoque donc le fait que le spectacle provoque des identifications imaginaires. Cette critique ne changera pas de nature à propos des jeux vidéo, à propos des spectacles de violence, à propos des spectacles pornographiques et à propos de la transposition de spectacles sur l'écran, plus ou moins luminescent, plus ou moins fluorescent. Au fond, la critique reste la même. C'est un lieu d'isolement, c'est un lieu de stimulation vide des émotions, c'est une figure du conformisme et du pouvoir. Et donc on voit la même critique, moins instruite, se faire jour devant les écrans qui nous fascinent et fascinent nos enfants. Fascination, d'ailleurs, est le mot, puisqu'il faut distinguer la fascination de l'attention. Si l'attention est libre, et si l'attention est, comme le dit très joliment Simone Veil, une sorte d'effort négatif d'un sujet qui n'est pas justement crispé sur son objet, la fascination, elle, consiste à être saisi, captif. L'image de la fascination est celle du faisceau qui nous étreint. La fascination est fasciste. Ça, c'est une astuce facile, mais ça permet de bien retenir, puisque c'est l'image donc des objets étreints rassemblés pour fouetter. Et si bien que la comparaison avec une drogue vient spontanément par les deux traits qui caractérisent habituellement l'usage des produits modificateurs des états psychiques, d'une part la rupture avec le réel, avec le monde de la sensation, cette rupture avec le réel qui s'accompagne, nous le reverrons peut-être, d'une rupture d'identité, puisqu'il y a une corrélation entre l'identité des objets et l'identité du moi. Et c'est bien décrit par Huxley dans Les Portes de la Perception. Lorsque je trouble la perception, je trouble simultanément et l'identité des objets et l'identité du moi. D'où un sentiment océanique, fusionnel, que le moi disparu peut éprouver, comme c'est bien décrit par Rimbaud. L'eau verte pénétra ma coque de sapin et des taches de vin bleu et des vomissures me lava, dispersant gouvernail et grappin. Le bateau ivre s'ouvre, s'éventre, perd son identité, et dès lors je me suis baigné dans le poème de la mer, infusé d'un stalactescent, dévorant les azurs verts où flottaison, blême et ravi, un noyer pensif parfois descend. Ce bateau qui s'éventre, qui va se confondre avec la mer, perd son moi. Et c'est d'ailleurs pourquoi, et à la fin, il dira « Moi qui, moi qui, moi qui, moi qui, je regrette l'Europe aux anciens parapets. » Donc, d'une part, la rupture avec le réel qui correspond à la perte du soi, et d'autre part, le deuxième trait qui caractérise l'usage d'une drogue, qui est l'addiction. L'addiction étant le caractère convulsif, répétitif, qui fait de la drogue une prison sans barreaux, quelle que soit la nature de cette drogue, l'addiction étant à bien distinguer du désir. L'addiction ne laisse qu'une souffrance. Le rat, prenons l'exemple du rat, auquel on produit des endomorphines à condition qu'il appuie sur une pédale, ce rat va se mettre à appuyer frénétiquement, maladivement sur sa pédale, n'ayant plus d'appétit, et devenant même insensible, ne mentionnez pas que cette expérience est faite, devenant même insensible au fait que la plaque de fer sur laquelle il se trouve devient brûlante. Normalement, ce n'est pas autorisé comme expérience. Et donc voilà, ce rat va franchir une plaque de fer brûlante pour aller appuyer frénétiquement sur sa pédale qui lui produit des endomorphines de manière absolument mécanique. C'est ce qu'on appelle une addiction. Les auteurs qui disent que ce rat éprouve un plaisir sont victimes d'une métaphore. Parce que manifestement, ce rat n'éprouve plus aucun plaisir. Et d'ailleurs, le drogué n'éprouve hélas plus aucun plaisir. Le cas de la drogue, c'est la même chose que la boulimie, tout ce que vous voulez, ce sont des gens qui ont perdu le sens du plaisir. Parce que le sens du plaisir est lié à la perception du réel et à la perception limitée de ce réel. Et donc, ils n'éprouvent plus qu'une espèce de souffrance compulsive, répétitive, qui, je le disais, donc devient un appauvrissement du monde, une perte d'intérêt pour l'action, et un appauvrissement de la vie affective. En somme, on peut caractériser l'usage d'une drogue comme celui d'une passion, la passion étant caractérisée par l'indifférence. Un passionné, c'est un indifférent. Celui qui ne voit plus rien. Qui est décelé du monde. Et qui ne vit plus que pour un objet, comme dans ce très beau poème d'Éluard à propos du feu, « Comme un mort, je n'avais qu'un unique élément. » Et c'est ce qu'obtient le fait d'isoler un sens. Alors vous avez dans le choix de texte un texte de Marshall McLuhan, extrait de la Galaxie Gutenberg, celui-ci je sais que vous l'avez, le livre a 50 ans, il fête ses 50 ans cette année. La Galaxie Gutenberg fut un livre retentissant. Ça a été le premier livre qui se soit consacré à l'invasion du virtuel, à la naissance d'un monde virtuel et aux transformations anthropologiques que provoque la naissance d'un monde virtuel, 1962. Et Marshall McLuhan insiste sur le fait que c'est la dissociation des sensations qui produit la sensualité. Et que, certainement, si nous vivons dans un monde extrêmement érotisé, c'est parce que nous vivons dans un monde où les sensations se trouvent déconnectées du rapport à la réalité et simultanément déconnectées des autres sensations. Il faut s'arrêter un moment à cette idée, parce que produit simplement le spectacle? Eh bien, le spectacle repose sur une abstraction. Il ne laisse au maximum solliciter que l'ouïe et le regard. On peut rêver, comme Rimbaud, d'un spectacle accessible un jour ou l'autre à tous les sens. Je vins d'un opéra fabuleux, je rêvais d'un spectacle accessible à tous les sens. Mais un spectacle accessible à tous les sens, c'est la vie. Il y a un seul spectacle accessible à tous les sens, c'est la vie. Et dès que je suis dans une position esthétisante, je suis dans une position de dissociation des sens, qui permet d'exacerber un sens en privant donc de l'usage d'un autre, en anesthésiant un autre sens. Et c'est ce qu'exprime le texte de Marshall McLuhan. J'en cherchais un autre, mais je ne l'ai pas trouvé, mais celui-ci fera l'affaire. Je vous invite à lire, si la question vous intéresse, la galaxie Gutenberg, parce que McLuhan montre bien comment les différents âges de l'écriture, les différents âges des moyens, des médias, vous savez, c'est le fameux inventeur de l'expression « le médium, c'est le message », comment les différents types de médias retentissent sur l'ensemble de notre vision du monde. Quand une société invente ou adopte une technologie qui donne la prédominance ou une importance nouvelle à l'un des sens, le rapport des sens entre eux est transformé. L'homme est transformé. Ses yeux, ses oreilles, tous ses sens sont eux aussi transformés. Sauf sous anesthésie, l'interaction des sens est constante. Or, l'intensification de l'action d'un seul des sens peut agir sur les autres comme le ferait un anesthésique. Et on peut se dire, cet enfant devant un écran, il est, au fond, anesthésié. Surtout s'il en perd la faim. Or, l'intensification de l'action d'un seul des sens peut agir sur les autres comme le ferait un anesthésique. Les dentistes utilisent aujourd'hui le bruit pour étouffer la perception tactile de la douleur. L'hypnose est une autre manifestation du même phénomène. Elle isole un sens. Regardez-moi. Elle isole un sens de façon à anesthésier les autres. Elle provoque une rupture du rapport intersensoriel, une sorte de perte d'identité. Alors je posais la question, et ça sera le deuxième temps, y a-t-il une différence de nature entre l'imaginaire et le virtuel? Et peut-on distinguer des âges et des modes de la relation à l'image? Est-ce la même chose de jouer au cow-boy et à la DS3? Est-ce la même chose de regarder un tableau et de regarder un film? Et on peut poser la question, d'ailleurs, à propos de la violence, un enfant à quelqu'un qui voit plusieurs centaines de morts dans une journée, il écoute pas tellement, ou de la pornographie. Pornographie, qui d'ailleurs, nous reviendrons là-dessus, n'est pas seulement caractérisée, et l'analyse de Rousseau est de ce point de vue vraiment programmatique, la pornographie n'est pas tant caractérisée par son objet que par son regard. Et par un type de regard sur le corps et même sur l'ensemble de la réalité. Alors j'emprunterai des distinctions faites par Régis Debray dans ce livre fort éclairant qui s'appelle « Vie et mort de l'image », dans lequel Régis Debray distingue, je transpose un peu son vocabulaire, trois âges de l'image, qu'il appelle l'âge de l'icône ou de l'idole. Il ne fait pas la différence, c'est une différence qui par ailleurs est faite par d'autres auteurs, mais ici il ne fait pas la différence, vous allez voir pourquoi. L'âge de l'icône ou de l'idole, l'âge de l'art et l'âge du virtuel. Et la thèse de Régis Debray, c'est que lorsque on passe à l'âge du virtuel, il y a vraiment un changement de nature de l'image, qui tient aux distinctions suivantes. L'âge de l'icône, ou de l'idole, c'est l'âge où l'image n'est pas tant la représentation d'une chose que sa manifestation. l'idole ne représente pas le Dieu dont le modèle serait quelque part sur l'Olympe. Ne copie pas, ne fait pas un portrait robot d'un Dieu absent. Mais l'idole est la présence du Dieu, la manifestation du Dieu. Et c'est la raison pour laquelle cette idole sera entourée de tous les rites et de tous les soins qui sont ceux de toute la religion qui est celle qui est due au Dieu. On dira donc de l'idole et de l'icône ici qui ne sont pas distinguées qu'elle est un mode de la présence. Et ce mode de la présence, c'est celui que j'évoquais quand le premier homme qui façonna une pierre vit surgir un visage et vit surgir ce visage comme une manifestation et non pas comme une représentation. Avec la puissance de manifestation. Ce premier régime de l'image, donc qui est celui de la présence, est à distinguer de celui de l'art, qui naît à l'époque moderne, c'est Renaissance et après, où l'image a conquis son statut, qui est pour nous le plus habituel, de représentation. Non plus de présence, mais de représentation. De figuration partielle et provisoire de quelque chose qui se trouve ailleurs, en dehors de l'image. L'image de Paul est un signe qui renvoie à Paul qui se trouve ailleurs, et cette image d'ailleurs, par rapport à Paul qui se trouve ailleurs, avoue une certaine pauvreté. Elle a un cadre, elle a une surface, elle a des codes qui permettent, qui, évidemment, de ne pas confondre l'image de Paul et Paul. Jamais personne n'a confondu l'image de Paul avec Paul. Et donc on est dans, non pas une visée de la présence, mais une certaine visée de l'absence. Parce que si je regarde l'image de Paul, c'est que Paul n'est pas là. D'ailleurs, Paul n'aime pas bien que je regarde son image quand il est là. Surtout si je lui dis comme tu étais beau quand tu étais jeune. Et c'est pour ça que jamais prendre les gens en photo, parce que quand on prend les gens en photo, ça veut dire qu'on s'apprête à les trahir avec ce qu'ils furent. Et donc, si l'on veut que les gens nous restent présents, il ne faut surtout pas les prendre en photo, puisque la photo vise la possibilité de l'absence. Et donc, à chaque fois que ma femme veut me prendre en photo, je lui dis, tu veux me quitter ? Car on ne photographie que ceux qu'on va quitter. Et donc c'est la représentation est une certaine visée, donc transposée sur fond d'absence. Avec le virtuel, nous le verrons, avec l'image virtuelle, que d'ailleurs parfois on se déplace pour aller voir au cinéma, c'est-à-dire qu'on va admirer les procédés cinématographiques pour eux-mêmes, justement, il n'est plus du tout question de faire référence à un quelconque objet qui serait antérieur et extérieur à l'image. Et donc, on n'a pas affaire à une présence comme dans l'idole, on n'a pas affaire à une représentation comme dans l'art, on a affaire à une simulation. À ce qui tient lieu d'un objet qui est complètement néantisé. Complètement aboli par l'impossibilité même de le représenter. Car on va représenter ce qui est impossible à représenter. Et en représentant ce qui est impossible à représenter, on est assuré, avec des effets spéciaux, on est assuré que, précisément, il n'y a pas d'objet derrière. Alors, ayant distingué le monde de la présence, de la représentation et de la simulation, Régis Debray distingue aussi les sources, les auteurs de ces images, et manifestement dans le régime idole ou icône, l'auteur c'est la communauté elle-même. La naissance de l'art, c'est la signature. Quand des peintres se mirent à signer, et quand ils se mirent, alors a fortiori, à faire des autoportraits, on se demande de quoi ils se mêlaient, et à se mettre parmi les rois mages, hein, etc. Puis peu à peu, les rois mages sont foutus le camp, il n'y a plus que le peintre qui s'est montré. Et est devenu donc l'auteur. Et avec l'art naît l'auteur et la sacralisation de l'auteur comme figure créatrice. On va même parler du créateur. Alors que, évidemment, celui qui sculpte une vierge romane, celui qui sculpte un Apollon, ne se prétend pas auteur. Et encore moins, bien entendu, créateur. Ça serait vraiment ridicule qu'il se qualifiât de créateur. Il ne fait que suivre le geste de sa communauté qui est réunie, un peu comme dans la fête décrite par Rousseau, autour de cette image qui, du coup, a un aspect sacré. Alors que, donc, l'auteur de l'idole est collectif, l'auteur de la représentation, donc, est un artiste dont la subjectivité deviendra de plus en plus envahissante jusqu'à voler en éclats. Le virtuel, lui, selon Régis Debray, est caractérisé non pas par l'auteur collectif, non pas par l'artiste, mais par la production, la boîte de production. Boîte de production qui se fait connaître à travers une marque et non pas un sujet qui serait donc source d'une œuvre. On n'est pas devant une œuvre, on est en vérité devant un produit. Et ce produit est tel qu'il peut être fait collectivement, tout comme peut être faite collectivement une réalisation technique qui peut passer d'un ingénieur à l'autre sans inconvénient. Si l'on continue à suivre quelques aspects des distinctions proposées par Régis Debray, donc vous avez le tableau sous les yeux, c'est ça ? Donc je simplifie le tableau et je me l'approprie. Il faut toujours se méfier des citations que l'on donne, surtout moi. En général, je les trafique. Donc le régime de l'idole, c'est la manifestation du sacré. La manifestation du sacré signifiant que l'image a un caractère de salut, elle a un caractère rédempteur. La présence, à travers l'idole ou l'icône, renvoie au salut, elle dit « Je vous sauve ». Par cette présence, je suis venu vous sauver. Et le sacré, vous le savez, ce sont des choses banales, est le sentiment qui accompagne la perception de la limite. Le sacré, c'est la limite qui unit et sépare l'ici-bas et l'au-delà. Le ici est le plus loin, et donc là, le seuil est la manifestation fondamentale du sacré. Et on peut dire que l'image dans le régime idole est une sorte de seuil, ce qui la met à part, parce que sacré veut dire intouchable, hein. Ce qui la met à part, cette image, c'est comme l'animal du sacrifice, d'être un médium entre le naturel et le surnaturel. Et c'est ce qui en fait un moment unique et une réalité intense. Au contraire, le régime de l'art renvoie à celui du beau. Le sacré ne se donne pas comme beau. Il se donne comme effrayant, c'est l'effroi. L'effroi n'est pas la peur. Ça serait plus l'ordre du sublime, si vous voulez, dans le sacré. L'art, lui, se présente comme en quête de beau, comme création du beau. Du coup, la formule que lui attribue Régis Debray, ce n'est pas « je vous sauve », mais c'est « je vous plais ». Quant au virtuel, selon Régis Debray, ce qui le caractérise, ce n'est pas la quête du beau, mais la quête du nouveau. Étonnez-moi. Et à ce moment-là, c'est non pas « je vous plais », mais « je vous surprends ». Il y a des effets spéciaux surprenants. Et je suis capable de montrer que je produis donc quelque chose de nouveau. Si bien que la relation de l'objet avec son destinataire, la relation de l'objet avec son destinataire est, dans le cadre de l'icône, celle d'une communauté, dans le cadre de l'art, un public, et dans le cadre du virtuel, un individu ou une clientèle. On pourrait dire une communauté, un public, une clientèle. D'ailleurs, la perception y est très différente, parce que dans ce que Debray appelle le régime de l'icône, l'idole n'est pas faite pour être regardée, malgré son nom. Devant l'idole, je baisse les yeux. Et la véritable relation à l'image sacrée, c'est de baisser les yeux. Au contraire, l'art, il est fait pour regarder. Et c'est ce qui fait sa connivence, son cousinage avec le spectacle et l'assimilation, par exemple, de la peinture à une fenêtre, qui nous met en position, donc, de regarder, isolé du monde, un monde qui se déploie comme un panorama. Et à ce moment-là, il y a une maximalisation du regard dans ce panorama que l'art peut ouvrir. Et j'aime bien la distinction que fait Régis Debray, disant que si le sacré fait baisser les yeux, si l'art fait regarder, le virtuel permet de visionner. Non pas de regarder, mais de visionner. C'est-à-dire, tout se passe comme si, au fond, c'était la machine elle-même qui soit regarde. Et où l'on peut dire que visionner, c'est une vision sans regard, dont la nature même est pornographique, quel que soit l'objet. Parce que, justement, dans cette vision sans regard, il y a quelque chose qui est déjà en soi de l'ordre de l'irruption, de la violation du réel. Si l'on suit, avec les nuances qu'il faudrait sans doute apporter, les suggestions de Régis Debray, cela veut bien dire que c'est tout le rapport au réel qui est changé selon les images dont nous disposons. L'art sacré ne produit aucune illusion, aucune évasion. Les gens n'allaient pas au temple pour s'évader. L'attitude esthétique peut en produire une, l'évasion. Mais cette évasion, elle est surmontée par la beauté. Ce qui empêche l'art, ce qui garde l'art d'être une pure évasion, c'est sa relation au beau. Parce que le beau signifie précisément une plénitude de l'être. Et donc la beauté de l'œuvre nous résiste, elle s'impose. Et c'est ce qui fait que dans l'art même, qui pourrait être le plus tenté de l'attitude du spectacle, dans la mesure où il est beau, il sort, ou dans la mesure où il propose une beauté, il sort de cette tentation du spectacle. Le virtuel, lui, n'est pas soucieux du beau, mais de l'intéressant, du captivant. On peut s'arrêter un moment à la différence entre le beau et l'intéressant et le captivant. Le beau délivre nos sensations de leur usage purement pratique. Quand je conduis une voiture, je prends des informations, j'évalue les distances, j'évalue les lumières, j'évalue les virages, je sens la tenue de route de ma voiture, et toutes les sensations que je prends sont des prises d'informations en vue de l'action. Je n'ai pas le temps de regarder que le paysage est beau. La personne qui est à côté de moi me dit « le paysage est beau, mais regarde surtout pas ». Et merci de l'info. Nos sens servent à l'action, ils nous donnent des informations pour nous dire « c'est chaud, c'est froid, c'est loin, c'est près, c'est rugueux, c'est lisse, etc. » Ça, c'est nos sens en tant qu'ils sont liés à l'action. Et comme on l'a vu tout à l'heure avec Rousseau, nos sens en tant qu'ils sont liés à l'action, on n'a pas trop intérêt à ce qu'ils soient titillés par l'émotion. Et donc, dans l'action, je dois resserrer le plus possible la frange de mes émotions. Il n'y a pas intérêt à ce que je sois ému en conduisant. Il ne faut pas que je sois en colère, il ne faut pas que je sois content, il ne faut pas que je rigole trop, et il ne faut surtout pas que je regarde la beauté du paysage. Donc l'action exige de nous une certaine maîtrise de l'émotion. C'est ce qui fait le modèle du GI parfait qui a surmonté tout tremblement. Au contraire, l'expérience de la beauté, c'est celle d'une liberté présente à l'intérieur même de la sensation. D'une ouverture à la réalité qui, à ce moment-là, n'est pas simplement là pour nous fournir des informations pratiques, mais se déploie en elle-même. Et c'est pourquoi l'expérience de la beauté est vraiment celle d'une libération, au contraire de l'intéressant, qui est celle d'une capture, qui est celle d'une fascination, comme on le disait tout à l'heure. Comment devrait analyse-t-il ce nouveau rapport lié au virtuel? Plus qu'une différence de support ou de représentation, c'est une différence d'attitude par rapport au réel qui est induite par le virtuel. Cette différence d'attitude par rapport au réel, c'est ce que l'on pourrait appeler une déréalisation, une néantisation, pour reprendre un mot à Sartre que nous retrouverons tout à l'heure. Je vous lis par exemple ce que vous avez le texte qui se trouve à la page 301 de Vie et mort de l'image. Révolution dans le regard. La simulation abolit, ça c'est le plaisir irrésistible de Régis Debray, de la formule. On le comprend. La simulation abolit le simulacre, levant ainsi l'immémoriale malédiction qui accouplait image et imitation. Elle était enchaînée à son statut spéculaire de reflet, calque ou leurre, au mieux substitut, au pire supercherie, mais toujours illusion. Ce serait alors la fin du procès millénaire des ombres, la réhabilitation du regard dans le champ du savoir. Avec la conception assistée par ordinateur, l'image produite n'est plus copie d'un objet antérieur, c'est l'inverse. Contournant l'opposition de l'être et du paraître, du semblant et du réel, l'image infographique n'a plus à mimer un réel extérieur, puisque c'est le produit réel qui devra l'imiter, elle, pour exister. Toute la relation ontologique qui dévaluait et dramatisait à la fois notre dialogue avec les apparences, depuis les Grecs, s'en trouve renversée. Le « re » de représentation saute au point d'aboutissement de la longue métamorphose où les choses déjà apparaissaient de plus en plus comme les pâles copies des images. Délestée de tout référent, l'image autoréférente des ordinateurs permet de visiter un bâtiment qui n'est pas encore construit, de rouler dans une voiture qui n'existe encore que sur le papier, de piloter un faux avion dans un vrai cockpit, par exemple pour répéter au sol une mission de bombardement. Voilà le visuel tel que lui-même enfin. Le visuel achève donc ce que Sartre décrivait comme l'attitude imaginaire par excellence. Dans son célèbre livre « L'imaginaire », Sartre montre que l'imaginaire n'est pas lié à un type d'objet, mais à un type d'attitude. À ce que l'on appelle en phénoménologie une intentionnalité. Et que ce qui caractérise l'imaginaire, c'est sa disposition néantisante, c'est-à-dire que lorsque j'imagine un objet, ça n'est pas pour le rapprocher, mais pour le nier. Ça n'est pas pour le faire venir à moi, mais pour l'abolir et en avoir par cette abolition une sorte de maîtrise magique. C'est ce qui explique sans doute ce phénomène assez étonnant que vous avez tous éprouvé, qu'on éprouve tous, de la difficulté d'en revenir au monde en sortant d'un spectacle. C'est assez étonnant. Il nous faut un sas, il nous faut un moment d'acclimatation. Quand nous sortons d'un film, quand nous sortons d'un temps où nous nous sommes livrés à la puissance fantastique de l'imaginaire, tout se passe comme si il fallait revenir au monde. Parce que la caractéristique de l'imaginaire, très bien décrite par Sartre, mais qui est en fait celle qui caractérise au mieux le visuel, c'est d'être sans monde. Ça n'est pas vrai de l'œuvre d'art. Il faut dire au contraire de l'œuvre d'art qu'elle crée un monde, qu'elle fait du monde un monde. Et l'exemple classique de Heidegger, c'est celui des chaussures de Van Gogh. Les chaussures de Van Gogh restituent un monde, nous mettent en présence d'un monde qui prend sens, dont notre perception est enrichie. Alors que dans l'attitude de l'imaginaire, il n'y a pas de monde car il n'y a pas de temps et il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas d'espace. Je ne peux pas faire le tour d'un objet imaginaire. C'est le fameux exercice d'Alain. On va s'y livrer. Vous pouvez imaginer le Parthénon ? Oui ? Ça y est, vous imaginez tous le Parthénon ? Oui ? Vous êtes en train d'imaginer le Parthénon, Solène ? Oui ? Comptez les colonnes. Je ne peux pas compter les colonnes du Parthénon que j'imagine. Parce que le Parthénon que j'imagine n'a pas d'espace et n'a pas de temps. Il n'a pas d'épaisseur, je ne peux pas en faire le tour. Et cette négation de l'espace et du temps montre bien que quand j'imagine le Parthénon, je ne cherche pas un équivalent du Parthénon, je cherche, comme dit Sartre, un non-Parthénon. Une négation du Parthénon. Quand Madame Bovary imagine Léon, la pauvre, elle ne cherche pas à rapprocher Léon, la preuve c'est que quand elle le voit arriver, elle est déçue, elle cherche au contraire un non-Léon. C'est pas très élégant. Et elle abolit l'objet de son imagination. C'est ce à quoi parvient le virtuel. Faut-il reconnaître à cela les caractéristiques d'une drogue ? Alors, il y aurait beaucoup à dire sur, les effets de la pornographie, y compris chez les enfants. Puisque 80% des adolescents ont déjà visionné un film pornographique. et que ceci s'accompagne d'états dépressifs, d'angoisse, etc., qui sont au fond des états de déficit psychologique ou de honte, si on les prend sur le plan moral, qui peuvent être tout aussi addictifs et suicidaires que ceux de l'alcool. Il y a des enfants de 12 ans addicts, on dit, qui ont une addiction à la pornographie. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir sans cesse à des images pornographiques qui exercent sur eux un caractère de quoi ? Exactement comme de l'alcool, de dépression et d'angoisse, et à laquelle on ne peut pas échapper, et à laquelle on revient sans cesse. Si bien d'ailleurs qu'il y a un usage quasiment suicidaire de l'image, enfin, de ce qui n'est même plus une image, qui n'est plus que du visuel. Qu'est-ce qui permet de le comprendre ? C'est que nous nous trouvons ici devant le pur principe de plaisir. On a entrevu, pour ceux qui étaient déjà venus à la rencontre que nous avons eue sur le jeu, la distinction entre principe de plaisir et principe de réalité. On a entrevu cette idée, chère à Freud, selon laquelle la déception est la seule mesure éducative, et que ce qui nous permet d'apprendre le réel et d'apprendre les autres, c'est la déception de nos illusions, la déception de notre premier rapport au monde qui aurait quelque chose de fantasmatique. La perception serait comme un fantasme adapté. Et un fantasme adapté du fait de la perpétuelle déception du fantasme qui ne nourrit guère son homme. Et si je veux arriver à rencontrer l'objet, il faut que j'arrive à sortir de cet univers fantasmatique. C'est ce que nous avions indiqué à travers l'analyse de Winnicott et de l'objet transitionnel. Vous savez, je le dis pour ceux qui n'avaient pas la chance d'être là lors de cette rencontre, Winnicott décrit ce qu'il appelle l'objet transitionnel, les doudous. Et comme ces objets qui sont des médiums vers le monde. Le doudou pour l'enfant n'est ni un moi ni un non-moi. Il est à proprement parler un objet fantasmatique, un objet hallucinatoire.